Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous revenons à ce grand premier chapitre de l'Apocalypse. Regardons ensemble les versets 7 et 8. Il vient avec les nuées. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ceux qui aiment les livres d'action, les livres d'aventure, vont certainement aimer le livre de l'Apocalypse. Il n'y a vraiment aucun livre comme celui-ci. Il est rempli de tragédies, il est rempli de suspense, de mystères, de passions, d'horreurs, de désastres après désastres. Il nous parle, par exemple, de l'histoire à venir, de l'apostasie de l'Église. Il parle de l'effondrement de l'économie mondiale. Il parle de la dernière guerre du monde. Il raconte des catastrophes naturelles sans précédent. Il raconte les derniers jugements de la colère de Dieu. Il parle de carnage, de conflits politiques qui ouvrent la voie à un homme du monde méchant, infernal, qui règnera. Il parle de la destruction totale de l'ensemble de l'univers et la damnation des corps et des âmes dans un enfer éternel. C'est un livre incroyablement survolté, et pourtant, étonnamment, c'est un livre d'espoir, un livre de joie, un livre avec une fin heureuse. Il nous faudra un certain temps pour dérouler son histoire. Il a fallu un certain temps pour Jean aussi. Il nous donne dans les versets 7 et 8 un aperçu des attractions à venir, un avant-goût de ce que ce livre va dévoiler. C'est entièrement au sujet de celui qui vient. C'est un livre sur la seconde venue. Voici la grande annonce glorieuse de la thèse, du thème, du cœur du livre dans le verset 7. Jésus vient. Ce grand fait résume le livre. Il condense le livre en une seule affirmation colossale, et Jean la développe pendant 21 chapitres. Le 22e chapitre nous emmène vers la gloire, pour nous en faire une description majestueuse. Ici nous avons dans le verset 7, le premier oracle prophétique du livre. Il vient après les salutations d'ouverture. Cet oracle prophétique est « Voici, il vient ». Voilà ce dont le livre parle. Ici, il dit pour la première fois « Regardez, faites attention ». Pourquoi ? Il vient. Le temps présent est utilisé ici. Vous avez vu ? Il ne dit pas « Il va venir ». Il ne dit pas cela. Il ne dit pas « Il viendra ». Il dit « Il vient ». Et ce verbe au présent sert à vous faire sentir qu'il est déjà en chemin, que le processus de sa venue a déjà commencé. Cette déclaration « Il vient » est en fait tirée de Daniel 7 au verset 13 qui dit « Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver, avec les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il s'avança vers le vieillard et on le fit s'approcher de lui. » Et puis Daniel 7 verset 14 dit « On lui donna la domination ». Jean reçoit donc un oracle, la révélation prophétique qu'il vient, qui fait écho à la promesse de Daniel 7, verset 13. « Celui qui vient » était un titre attribué au Messie. « Celui qui vient » était un nom spécial pour le Messie. En fait, dans Matthieu, nous avons une référence intéressante. Je vais vous la lire. Dans Matthieu, Jean-Baptiste était en prison, et il fit dire à Jésus par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» Vous voyez, tous les Juifs savaient que celui qui devait venir était le Messie. Jésus est celui qui doit venir. Ce même verbe, erchomei, qui signifie venir, est utilisé directement ou indirectement par référence au Christ 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. 7 de ces 9 fois sont les paroles de Jésus, faisant référence à lui-même, comme celui qui vient. Ce livre parle donc de la venue de celui qui vient, et ce verbe au présent nous indique qu'il est déjà en chemin. Pour que nous soyons dans cette attitude d'attente qui conduit Jean à dire « Regardez, il vient ». comme s'il nous fallait vivre dans une attente fébrile. Encore une fois, c'est cela le cœur même de ce livre. Nous devons ouvrir notre esprit à cet événement grandiose, et pour cela, il nous faut comprendre son importance dans l'Écriture. Voyons si je peux vous aider. On dit que la prophétie ou la prédiction future remplit un cinquième des Écritures. De ce cinquième qui parle de la prophétie future, un tiers se réfère à la seconde venue de Jésus-Christ. Certains ont calculé qu'il y a plus de 660 prophéties générales, 333 sur le Christ, 109 qui parlent de sa première venue, 224 de sa seconde venue. On voit donc que la Bible a beaucoup à dire au sujet de sa seconde venue. Sur les 46 prophètes de l'Ancien Testament, moins de 10 d'entre eux parlent de sa première venue, 36 d'entre eux parlent de sa seconde venue. Il y a plus de 1500 passages de l'Ancien Testament qui se réfèrent en quelque sorte à la seconde venue de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 se réfère directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Pour chaque mention de la première venue du Christ, la Bible mentionne 8 fois la seconde venue. Pour chaque mention de l'expiation, on trouve 2 mentions de la seconde venue. Jésus parle 21 fois de sa seconde venue, et plus de 50 fois, nous sommes exhortés à être prêts pour son retour. Donc c'est un thème majeur dans les Écritures. Et je mentionne ces chiffres, non pas pour que vous vous en souveniez, mais pour que vous compreniez l'importance de la parole prophétique se référant à la seconde venue. J'ai été surpris d'entendre, lors d'une conversation composée de délégués des églises du monde entier, à Evanston, dans l'Illinois, sous la direction du Conseil œcuménique des églises, que, d'après leur sondage, seuls 10% des pasteurs protestants américains considèrent la doctrine sur la seconde venue comme cruciale. 90% d'entre eux ont indiqué qu'elle n'était pas cruciale. Pierre prédit clairement ce genre d'incrédulité quand il dit « Où est la promesse de sa venue ?» demandent les moqueurs. Les moqueurs ont toujours voulu nier la seconde venue, car elle est en rapport avec le jugement, et ils ne sont pas prêts ou ne veulent pas faire face au jugement de Dieu. Mais en dépit de ce que les moqueurs disent, la Bible montre clairement que Jésus reviendra. Maintenant, juste pour étayer encore un peu plus mon affirmation, pour la soutenir, je note qu'il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui exigent le retour du Christ. Non seulement cette quantité de prophéties, il y a quelques autres questions impérieuses qui exigent le retour du Christ. Permettez-moi d'en suggérer quelques-unes pour vous. Suivez très attentivement quand je les cite. Tout d'abord, la promesse de Dieu exige le retour de Jésus. Par exemple, dans Genèse chapitre 49 au verset 10, la première prophétie concerne le règne du Messie. Le spectre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples lui obéissent. De Judas viendra Shiloh, le Messie, et les nations lui obéiront. Cela n'a pas encore eu lieu, mais Dieu l'a promis. Si cela n'a pas eu lieu à la première venue de Jésus, c'est que cela se produira lorsqu'il viendra pour la seconde fois. Dans le psaume 2, Dieu a promis que les nations se prosterneront devant Jésus-Christ et qu'il gouvernerait sur elles avec un spectre de fer. Cela n'a pas eu lieu. Cela doit se produire dans l'avenir. Cela n'a pas eu lieu lors de sa première venue. Cela va se passer lors de sa seconde venue. Ésaïe a dit qu'il serait le Dieu puissant, Père éternel, cet enfant né pour nous. Et le gouvernement serait sur ses épaules. Cela n'a pas eu lieu la première fois qu'il est venu. Il n'a pas établi de gouvernement. Il n'est pas devenu le maître. Il est donc encore à venir. La Bible nous dit dans Zacharie que, quand il viendra, il divisera le mont des oliviers et les nations y seront réunies et jugées. La Bible nous dit que, quand il viendra, il apportera un royaume glorieux. Lisez le livre d'Ésaïe. Rien de tout cela n'est arrivé. Cela n'a pas eu lieu la première fois. Cela veut donc dire que ce sera pour la deuxième fois. Nombre 23 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Puisque Dieu a dit que cela se produirait, le Fils de Dieu doit revenir pour que cela puisse se produire. La promesse de Dieu exige la seconde venue. » Deuxièmement, les paroles de Jésus exigent la seconde venue. Jésus a dit dans Jean 14 « Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais, vous préparez une place. Je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » Jésus a promis qu'après être parti, il reviendrait. La promesse de Jésus exige la seconde venue. Dans Luc 19, Jésus dit « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Il appela 10 de ses esclaves et leur donna 10 mines et leur dit « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelles affaires ils avaient faites. Et vous savez comment l'histoire continue. Maintenant, dans le verset 26, « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Et Jésus dit, « Je suis ce roi, je vais partir, je reviendrai, je vais regarder ce que vous avez fait avec votre privilège de l'Évangile. Si vous n'en avez rien fait, je vous maudirai. Si vous avez exercé la foi envers moi, je vous emmènerai avec moi dans la gloire. Il est le roi qui est parti, qui va revenir récompenser les siens et juger ceux qui l'ont rejeté. » Le Seigneur Jésus a envoyé un ange à Jean, et cet ange est venu vers Jean alors qu'il écrivait le livre de l'Apocalypse. Et Jésus a dit 6 fois à cet ange, « Dis-lui d'écrire, « Voici, je viens bientôt. » Jésus a promis qu'il reviendrait, et sa promesse exige la seconde venue. Il vient parce que Dieu, qui ne peut mentir, l'a dit. Il vient parce que Jésus lui-même, qui ne dit que la vérité, l'a dit. Troisièmement, la garantie de l'Esprit Saint l'exige. Notons que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Dans Jean 15, au verset 26. Dans Jean 16, au verset 13, Jésus dit, « Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera des choses qui me concernent. Il allait inspirer les Écritures. Il allait choisir des auteurs qui écriraient les Écritures inspirées par lui. Et chaque fois que vous lisez des passages sur la seconde venue, 1 Corinthiens 1, des versets 4 à 8, Philippiens 3, des versets 20 à 21, Colossiens 3, verset 4, Jacques, chapitre 5, verset 8, 1 Pierre 1, verset 13, 1 Jean 3, versets 2 à 3, etc. Chaque fois que vous lisez des passages qui parlent de la seconde venue du Christ, c'est le témoignage du Saint-Esprit inspirant l'auteur. Dieu a promis qu'il reviendrait. Christ a lui-même promis qu'il reviendrait. Et le Saint-Esprit a promis qu'il reviendrait. Il doit revenir parce que les promesses de la Trinité, la crédibilité de la Trinité est en jeu. Quatrièmement, Jésus doit revenir parce que son plan pour l'Église l'exige. Dans Actes, chapitre 15, je voudrais juste vous montrer un très bref mais puissant passage. Actes 15, verset 14. Paul et Barnabas viennent et racontent les conversions des païens, et tout le reste. Et puis Jacques parle, et voilà ce qu'il dit, en commençant au verset 14. Siméon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre, parmi les nations, un peuple à son nom. En d'autres termes, Dieu a un but, et ce but est de faire des païens un peuple pour son nom. Le verset 15 dit, les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Et il cite Amos et Jérémie de l'Ancien Testament. Jérémie dit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai la tente de David, qui était tombée. J'en relèverai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des humains recherche le Seigneur. Oui, toutes les nations, sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. » Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe ici. Pierre vient de revenir, et il rapporte que Dieu sauve les païens. Paul et Barnabas eux-mêmes le savent et le vivent également. Et ils disent que Dieu prend un peuple. Dieu tire un peuple de toutes les nations pour lui-même. Et le verset 11 dit qu'ils sont sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière que les Juifs. C'est l'Église. Et c'est surprenant que Dieu se cherche un peuple parmi les païens. Ainsi Jacques arrive, le demi-frère de notre Seigneur. Et il cite une prophétie qu'on trouve initialement dans Amos 9. Versets 11 à 12. N'est-ce pas exactement ce que dit Amos, que non seulement il reconstruira le tabernacle de David, mais il appellera également un groupe de personnes venant des païens, et ensuite il établira le royaume. Oui, le tabernacle de David, ou le royaume, la maison de David, la maison royale sera reconstruite et restaurée, et c'est le royaume. Mais avant que cela se produise, un peuple sera appelé. Donc, les choses se suivent. D'abord, l'appel de l'Église, et ensuite, vous avez le royaume au verset 16. Après cela, je reviendrai, et je relèverai la tente de David qui était tombée. Voilà exactement ce que le prophète a dit. Ainsi, le point que je veux souligner, c'est que Dieu va appeler une Église. Puis, il va revenir et établir son royaume. Et dans ce royaume, toutes les nations seront sous la domination du Christ. Nous sommes toujours au verset 14. Revenons à ce verset clé. Dieu prend parmi les païens un peuple pour son nom. Après cela, verset 16, il reviendra. Ainsi, son projet pour l'Église, c'est d'appeler l'Église, puis revenir. L'Église, selon Paul, est comme une vierge qui attend son mari. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Un Thessalonicien parle de l'Église attendant d'être enlevée. Ainsi, le plan pour l'Église exige le retour du Christ. Le plan pour les nations l'exige. Nous n'avons pas le temps de regarder en détail le développement de tout cela. Mais le plan de Dieu pour les nations exige qu'il revienne. Pourquoi ? Le psaume 2 dit qu'il va revenir et gouverner les nations. C'est une prophétie familière à tout étudiant de l'Écriture. Joël 3 parle d'un temps où le Seigneur vient et rassemble toutes les nations et les mène dans la vallée de Josaphat et entre en jugement avec elles. C'est dans l'avenir. Dans le verset 9 de Joël 3, il parle d'une guerre. De vos hoyaux, forgez les épées et de vos serpes, des lances. Il parle ici de la grande bataille d'Armageddon, des multitudes dans la vallée de décision. Il va y avoir un temps futur, une guerre future, un jugement futur. Et pendant cette guerre, et au moment de ce jugement, le Messie viendra et donnera son grand jugement. De fait, il est dit dans Joël 3, verset 12, « Là, je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. » Voilà le devoir du Messie. Ainsi, le projet du jugement futur des nations, la vallée de Josaphat, la vallée de décision, le jugement des nations exige que Jésus revienne. Sixièmement, le plan pour Israël exige qu'il revienne. Vous pouvez lire l'Ancien Testament. Je n'ai même pas besoin de vous citer beaucoup de passages, mais vous trouverez à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament que Dieu a promis à Israël un royaume. Il a promis que le Messie viendrait et leur donnerait le royaume. Le Messie est venu, mais ils n'ont pas reçu de royaume. Par exemple, dans Ésaïe 59, verset 20, il est dit « Un rédempteur vient pour Sion, pour les gens de Jacob qui reviennent de leur révolte. » Déclaration du Seigneur. « Quant à moi, telle est mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon souffle est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne seront pas retirées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. » En d'autres termes, Dieu dit « Je vais venir, et je vais vous sauver avec un salut éternel. » Eh bien, de toute évidence, cela n'a pas eu lieu pour Israël. Le Messie n'a pas fait cela. La première fois qu'il est venu, ils l'ont tué, ils l'ont rejeté. Mais il reviendra une autre fois, et ils vont croire en lui. Jérémie 23, verset 5. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi, et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours, Judas sera sauvé. Israël demeurera en sécurité. » Eh bien, vous savez que cela n'a pas eu lieu. Le Messie viendra. Il les sauvera. Il leur donnera la paix, la prospérité, la sécurité et un royaume. La Trinité garantit la venue du Christ. C'est une promesse faite par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les plans que Dieu a tracés pour les nations, pour Israël, pour l'Église, exigent tous le retour du Christ. Il doit revenir pour juger les nations. Il doit revenir pour enlever l'Église. Il doit revenir pour donner le royaume à Israël. Trois autres points simples. L'abaissement de Jésus-Christ exige qu'il revienne. Il est venu dans ce monde et ils l'ont rejeté. Ils lui ont tourné le dos. Ils l'ont refusé. L'histoire ne peut pas se terminer ainsi. Cela ne peut pas finir de cette façon. Il reviendra. Il y aura un moment où Jésus reviendra dans la gloire et ils l'adoreront. Dans Matthieu 26, vous savez cette terrible histoire racontée dans Matthieu sur la mort du Christ. Mais au milieu, alors qu'il parle avec le grand prêtre, écoutez ce que dit Jésus dans Matthieu 26, verset 63. Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « C'est toi qui l'as dit. Mais je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements à ce qu'il pensait être un tel blasphème. Et puis, ils lui crachèrent au visage. Ils l'ont frappé avec leurs poings. Jésus a dit, « Ce n'est pas la dernière fois que vous me voyez. Je ne laisserai pas cette saga se terminer avec mon humiliation. Vous me verrez dans la puissance, et vous me verrez dans la gloire. » Le monde, croyez-moi, n'en a pas fini avec Jésus. Aucun chrétien, et Dieu encore moins, ne peut accepter que la dernière vue que le monde aura eue de Jésus-Christ est celle d'un criminel saignant, mourant, crucifié avec du sang, des crachats et des mouches volant partout autour de sa chair, pendu nu dans le ciel de Judée. Pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas la vue finale. Huitièmement, une autre raison pour laquelle Jésus vient est que l'élévation de Satan l'exige. Satan n'est que temporairement élevé. Trois fois dans les Écritures, il est appelé le prince de ce monde. Paul l'appelle le Dieu de ce siècle. Jean dit « le monde entier est dans ses mains ». L'auteur des Hébreux dit qu'il a le pouvoir de la mort. Mais Jésus a rompu ce pouvoir. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit que Jésus est venu pour le détruire, pour détruire le diable. Romains 16, verset 20, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Jésus doit revenir pour détrôner l'usurpateur qui a pris le trône de ce monde. Et enfin, neuvièmement, l'attente des saints l'exige. La promesse de la Trinité l'exige. Le plan de Dieu l'exige. L'abaissement du Christ l'exige. L'élévation de Satan l'exige. Et notre espérance l'exige. Si nous n'avons d'espoir que pour ce monde, nous sommes quoi? Les plus misérables de tous les hommes. Nous avons l'espérance parce que nous savons que Jésus doit venir, qu'il y a une vie éternelle à venir. Mais pas seulement cela. Nous ne cherchons pas seulement le ciel. Nous sommes à la recherche du Christ. Écoutez Tite 2, verset 11. Les yeux hautains de l'être humain seront abaissés. La supériorité des hommes sera courbée. Le Seigneur seul sera élevé en ce jour-là. Nous sommes à la recherche du Christ. 2 Timothée 4, verset 8. Parle de ceux qui aiment son apparition. Croire en la seconde venue de Jésus-Christ est donc au cœur de l'évangile chrétien et de la foi chrétienne. La crédibilité de la Trinité est en jeu. L'intégrité du plan de Dieu pour l'Église, pour Israël et pour les nations est en jeu. Et le détrônement de Satan est en jeu, ainsi que la réalisation de l'attente et de l'espérance des croyants. Le livre de l'Apocalypse révélera ces neuf éléments pendant notre étude. Mais je vous ai donné tout ce développement pour souligner la déclaration du verset 7. Voici il. Soulignez le mot « vient ». Tout l'exige. Il vient. Jean nous donne un aperçu. Alors regardez très attentivement. Je vais vous donner quelques pensées très simples et directes. Il nous montre la gloire, et c'est le premier point. Tout ce passé n'était que l'introduction. Voici les points sur lesquels je voudrais vraiment que vous vous concentriez. Maintenant que vous savez qu'il vient et que tout l'exige, tout d'abord, remarquez la gloire de tout cela. La gloire de sa venue est indiquée par les mots, avec les nuages. Si vous étudiez votre Bible, vous trouverez que les nuages jouent un rôle important. Le nuage était le symbole de la présence de Dieu avec son peuple qui errait dans le désert. Souvenez-vous, ils étaient conduits par un nuage durant le jour. Souvenez-vous aussi que le nuage de la gloire de Dieu a rempli le tabernacle dans Exode 40, quand il a été construit. Souvenez-vous aussi que lorsque le temple a été achevé dans 1 Roi 8 au verset 10, le nuage de la gloire de Dieu a rempli le temple. Souvenez-vous aussi dans Daniel 7 au verset 13 que le Fils de l'homme viendra avec les nuées du ciel. Souvenez-vous quand Jésus est venu et puis est allé sur la montagne et fut transfiguré. Vous savez que dans Matthieu 17 au verset 5, il est dit qu'un nuage est descendu sur le Fils de l'homme, sur cette montagne de gloire. Lorsque Jésus est monté au ciel dans Actes 1 et au verset 9, une nuée le déroba à ses yeux, et quand il reviendra, Matthieu 24 au verset 30, il viendra dans les nuées du ciel. Nous voyons donc à nouveau qu'il vient avec les nuées. Quel en est le but? Eh bien, cela pourrait signifier qu'il est d'une origine céleste, qu'il vient du ciel, là où sont les nuages. Mais je pense que c'est plus que cela. En fait, je ne pense même pas que ce qui est important ici soit une sorte de nuage physique. Je pense que c'est un nuage de gloire. Si vous revenez dans l'Ancien Testament, à la Genèse, vous pouvez lire un passage qui parle de la gloire, de la Shekinah, qui n'était que lumière, une lumière brillante, flamboyante, Dieu se manifestant en une lumière qui pouvait être vue. Il pouvait également être entendu, parce qu'ils l'ont entendu dans le jardin. Il est dit qu'ils ont entendu Dieu se déplacer dans le jardin. Cela devait être une lumière dynamique. Dieu est un esprit et non pas un corps. Dieu n'est pas un homme. Mais il s'est révélé dans une sorte de lumière éclatante. C'était si puissant et si flamboyant que personne ne pouvait la regarder pleinement et vivre, dit Exode 33. Vous ne pouvez donc en voir qu'une petite partie. Elle devait être voilée. Mais dans l'avenir, lorsque le Christ reviendra, la gloire ne sera pas voilée. La première chose que Dieu va faire sera d'éteindre l'univers. Le soleil s'éteint, la lune s'éteint, les étoiles aussi, et l'univers entier deviendra noir. Nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse. Et dans l'univers noir, la gloire vient du ciel, la gloire flamboyante de Jésus, comme un million de soleils. Nous verrons donc la gloire de sa venue. Par ailleurs, savez-vous de quoi est ce nuage ? De l'éclat flamboyant du Christ, qui est l'image exprimée du Père, qui est l'éclat de son essence, dit Hébreux 1. Ajoutez à cela 10 000 fois 10 000, et des milliers et des milliers, ce qui signifie un nombre incalculable de saints anges dans la gloire flamboyante. Et vous ajoutez à cela tous les saints glorifiés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui sont en robe blanche, chevauchant des chevaux flamboyants. Le mot est lekon, qui signifie flamboyant, et pas seulement blanc. Vous avez un spectacle qui sort de l'obscurité, un ciel noir, avec une lumière indescriptible. Et quand il est dit « il vient avec les nuages », cela ne signifie pas qu'il va naviguer doucement sur un petit nuage blanc. Pas du tout. La gloire, donc. Et croyez-moi, on aura plus de détails à ce sujet. La deuxième chose qu'il introduit est la portée de ce retour. Le verset 7 dit « chaque œil le verra, chaque œil. Sa venue sera visible pour toute la race humaine, tout le monde, la terre entière. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. La première fois que Jésus est venu, sa gloire était voilée, n'est-ce pas ? Elle était voilée dans la chair humaine. Une fois sur la montagne de la Transfiguration, il a ôté le voile, et ils ont vu la gloire éclatante. Pierre, Jacques et Jean ont été pris de panique. Ils étaient remplis de peur, et ils étaient croyants. C'était juste un petit aperçu de la gloire qui était voilée par sa chair humaine. Elle était couverte. Elle était cachée. Quand il reviendra, ce ne sera pas le cas. Et tous les yeux sur la surface de la terre le verront. Et puis, il sépare le monde en deux groupes. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Ce sont les deux groupes. Vous dites, qui sont-ils ceux qui l'ont percé ? Pas les soldats romains, ils sont morts depuis longtemps, ils ne le verront pas. De qui parle-t-il ? Permettez-moi de vous montrer de qui il parle. Ouvrez vos Bibles à Jean 19, verset 37. Les soldats sont venus, bien sûr, et l'un d'eux lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Verset 34. Il n'avait pas besoin de briser ses jambes. Il était déjà mort. Donc le verset 36 dit « Aucun de ses os ne sera brisé, comme le dit les Écritures, et cela arriva. » Et puis un autre passage dit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » À quoi cela se réfère-t-il ? Il parle de la prophétie de Zacharie. De qui Zacharie parle quand il dit que ce groupe était celui qui regardait celui qu'ils ont transpercé ? Zacharie dit que ce sont les Juifs. Ce seront donc les Juifs. Zacharie a dit que le jour viendra où ils chercheront celui qu'ils ont transpercé. Et il parlait des Juifs. Vous vous demandez comment je peux en être sûr ? Parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, afin qu'ils me cherchent, celui qu'ils ont percé. Qui a percé Jésus ? Pas les Romains. Qui était responsable de sa mort ? Israël. Regardez Actes, chapitre 2. Dans Actes 2, verset 22. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu. C'est là, homme d'Israël. Vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Mais c'est vous qui l'avez fait. Vous avez utilisé les mains des Romains, mais c'est vous qui l'avez fait. Acte 3, verset 14. Il parle ici des Juifs. Vous, vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. C'est vrai, ce sont les Juifs. Et donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 7 ? Les Juifs qui l'ont transpercé le verront. Ils le verront. Maintenant, écoutez bien. Ce que vous allez trouver dans le livre de l'Apocalypse montre qu'une partie de ces Juifs seront sauvés au moment où il viendra. En fait, il y a 144 000 d'entre eux, 12 000 de chaque tribu, qui seront sauvés et ils évangéliseront le monde. Et d'autres Juifs seront sauvés dans la seconde moitié du temps appelé la tribulation, juste avant son retour. De ce fait, parmi ceux qui le verront arriver, certains des Juifs seront déjà sauvés à ce moment-là, mais il y a d'autres Juifs qui n'auront pas encore été sauvés au moment où ils le verront venir du ciel, mais qui le seront à ce moment-là. Il y a une période de temps où le Christ viendra du ciel avant le jugement final. Il s'agira peut-être de quelques jours, peut-être de quelques heures. Nous ne savons pas exactement, mais il y aura le temps de se repentir. Et je crois que pour la grande vaste nation d'Israël, ce sera le moment du salut des Juifs, ceux qui sont en vie à ce moment-là. Retournez à Zacharie, chapitre 12, et je vais dérouler cette formidable vérité devant vous. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de grâce et de supplication. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais sauver les Juifs. Je vais les sauver. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Pourquoi pleurent-ils? Je vais vous le dire. Ils pleurent à cause de ce qu'ils ont fait à leur Messie. Un jour viendra où Dieu sauvera la nation de David, où il sauvera les Juifs, où il répandra grâce et supplication sur eux. Le mot « supplication » signifie qu'il leur accordera l'esprit de repentance, par lequel ils demanderont pardon. Ils supplieront pour recevoir le pardon. Je vais faire ça pour eux, et ils verront celui qu'ils ont percé venir du ciel, et ils vont pleurer sur lui, comme on pleure quand on a perdu un fils unique, et ils vont pleurer amèrement, comme s'ils perdaient leur premier-né, car ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Ils vont réaliser leurs péchés, et leurs larmes seront des larmes de repentance. En ce jour-là, dit le verset 11, il y aura de grandes lamentations à Jérusalem, comme les lamentations de Hadad-Rimmon dans la vallée de Megiddo. Il y aura un deuil terrible, un moment terrible, un peu comme le deuil dans la vallée de Megiddo, quand le roi pieux Josias a été assassiné par le pharaon Nécho, comme on lit dans 2 Chroniques 35. Cela va être un terrible temps de deuil. Au verset 12, le pays se lamentera, chaque clan à part, le clan de la maison de David à part, et les femmes à part, le clan de la maison de Nathan à part, et les femmes à part, Lévi, Shimei, tout le monde est en deuil, toutes les femmes sont en deuil, et chaque famille pleure, tout Israël. Christ vient dans une gloire éclatante, tout le monde sur la terre le voit, les Juifs le voient, certains d'entre eux seront sauvés, mais à ce moment, ceux qui ne le sont pas encore vont pleurer dans la repentance et la supplication. Ils vont sentir la grâce et le pardon de Dieu. C'est tellement beau. Chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, quand il viendra, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et la souillure. Que va-t-il faire? Il va les laver. Oh, quelle vérité merveilleuse! Le salut! Ce jour-là, en un seul jour, Dieu dit, « Je vais enlever l'iniquité de ce pays en un seul jour. » Et c'est le jour de sa venue. En passant, nous retrouvons cette pensée dans Zacharie 3, verset 9. « Et je retirerai la faute de ce pays en un seul jour. » Vous savez ce que cela signifie de pleurer, de frapper la poitrine dans la douleur, de se lamenter, de sangloter? C'est le deuil de repentance. Alors, retenez bien cela. Quand Jésus reviendra dans la gloire flamboyante, les Juifs se repentiront. Ésaïe 25, verset 9, dit « En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui, et il nous a sauvés. » Waouh ! Les 144 000 seront déjà sauvés. Ils ont évangélisé le monde, plus particulièrement les Juifs, afin que les Juifs entendent l'Évangile. Ils verront le Christ glorifié, et ils vont se marteler la poitrine, pendant que Dieu répand souverainement et gracieusement sur eux un esprit de supplication et leur fait plaider pour avoir le pardon. En ce jour-là, il envoie une fontaine pour les laver de leurs péchés. Et dans Romains 11, Paul dit « Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Les Juifs le verront, et ils se lamenteront. Ils seront en deuil de repentance. » Mais remarquez l'autre groupe qui le voit. « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. » Toutes les tribus de la terre. Qui est-ce? Matthieu 24, verset 30, nous le dit clairement. Il est dit dans Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Eux aussi, quand ils le verront arriver, ils vont se mettre à pleurer. Écoutez attentivement. Seulement, ce ne seront pas des larmes de repentance. Ce sont les païens. C'est le reste du monde. Le mot pour deuil ici est intéressant. C'est le mot copto. Cela signifie littéralement coupé. Pourquoi ont-ils utilisé le mot coupé? Parce que cela vient de l'imagerie orientale. Quand les gens étaient dans un profond désespoir, pour une raison étrange, ils se coupaient, se tailladaient le corps. Savez-vous que les gens le font toujours? Ce n'est pas rare pour moi de parler à quelqu'un qui me dit qu'il était dans un terrible désespoir, et dans son désespoir, il s'est tailladé le corps. Dans 1 Roi 18 au verset 28, les prophètes de Baal, paniqués, en folie, horrifiés à l'idée que Baal n'entende pas leurs prières, se firent, selon leurs règles, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Les gens, dans le désespoir, se coupent. Les Orientaux faisaient souvent cela. Et comme je l'ai dit, certaines personnes le font encore. Et donc, se couper est devenu un moyen d'exprimer le deuil. Quand Jésus viendra, les Juifs se lamenteront, dans un deuil de repentance. Selon Zacharie, le monde pleurera, mais ce ne sera pas dans un deuil de repentance. Apocalypse 9, verset 21. Ils ne revinrent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur prostitution, ni de leur vol. Ce n'est pas le remords de la repentance. En fait, ils finissent par maudire Dieu, par blasphémer Dieu, et ne se repentent pas du tout. Deux groupes. Tout le monde va voir la venue du Christ. Les Juifs se lamenteront dans leur deuil de repentance. Les païens se lamenteront dans le deuil du jugement et de la peur. Troisième point de ce petit résumé. La réponse à la seconde venue. La gloire de sa venue, que l'on voit avec les nuages. L'étendue de sa venue, vue par tant de personnes. La réponse qui est faite à sa venue. J'aime cela. Amen. C'est le top-là spirituel de l'époque. Jean dit, « Yeah, c'est ça, vas-y. Voilà la réponse. » Il utilise deux mots ici, un grec et un hébreu. « Nai », un mot grec qui signifie « oui », et « amen », un mot hébreu qui signifie « oui ». Il prend les deux langues et en fait une affirmation. Il fait la même chose dans Apocalypse 22, verset 20. « Amen, viens, Seigneur Jésus. Oui, vas-y, Jean est ravi. » Voilà sa réponse. Cela devrait être notre réponse également. Enfin, et c'est tout simplement sensationnel, vous devez saisir ceci. La dernière caractéristique de ce résumé du livre, en ce qui concerne le retour de Christ sur la terre, est la certitude. La certitude. Ici au verset 8, « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je lis certains commentaires. En fait, j'ai lu probablement une vingtaine de commentaires cette semaine sur ce passage, et certains d'entre eux disent « Nous ne savons pas pourquoi ce verset est ici. Nous ne savons pas s'il a un lien avec le verset 7. On dirait qu'il a juste placé ces mots ici, et nous ne savons pas s'ils ont un sens dans le contexte. » La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai compris pourquoi il était là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit en quelque sorte « Si vous pensez que ces choses ne peuvent pas arriver, je veux juste affirmer « Qui contrôle cet événement ? Et qui je suis ?» Donc on a, dit le Seigneur Dieu. C'est Jéhovah qui parle. Ceci, en passant, est sa signature sur la certitude de la seconde venue. C'est absolument magnifique. Dieu met sa signature sur cette prophétie en insistant sur trois de ses attributs. Trois qui nous sont très familiers. Premièrement, son omniscience. Je suis l'alpha et l'oméga. Que sont l'alpha et l'oméga ? La première et la dernière lettre de quoi ? De l'alphabet grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, un alphabet, c'est une façon ingénieuse de stocker et de communiquer toutes les connaissances. Combien de lettres y a-t-il dans notre alphabet? 26. Combien de mots peuvent-ils être formés à partir de cela? Un nombre infini de mots tirés de ces 26 lettres. Un alphabet est une chose assez ingénieuse, et avec 26 lettres dans notre alphabet, disposées dans des combinaisons presque infinies, nous pouvons tenir et transmettre toutes les connaissances. Il n'y a aucune combinaison de lettres, en dehors de notre alphabet, qui a un sens. Si vous nous sortez quelques signes bizarres, qui ne correspondent pas à notre alphabet, nous ne pourrons pas comprendre. Cela ne voudra rien dire pour nous. Notre alphabet contient toute la connaissance. Pourquoi Dieu dit-il « Je suis l'alpha et l'oméga » En fait, il dit « Je suis l'alphabet souverain suprême, dans lequel est contenue toute la connaissance ». Voilà ce qu'il dit. Je suis Alep, Ato. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A à Z. Parce que quelqu'un pourrait venir et dire, Eh bien, vous dites que Jésus vient. Eh bien, peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va contrecarrer tout cela, que vous ne le savez même pas. Et il dit, « Écoutez, je suis de A à Z. Je possède toutes les connaissances. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de sagesse en dehors de ce que je sais. Quand je dis que Christ vient, je vous dis qu'il n'y aura pas de surprise, car il n'y a rien en dehors de mes compétences. Je suis l'alpha et l'oméga. Je sais tout. Et puisque j'ai toute la connaissance, il n'y a rien que je ne sais pas. Il n'y a rien qui existe ou qui pourrait arriver pour déjouer ce plan, parce qu'il n'y a rien que je ne sais pas. Il n'y a pas de facteur inconnu qui pourrait saboter la seconde venue. Le second attribut qu'il souligne est son omniprésence. Il s'identifie comme celui qui est, qui était et qui est à venir. C'est vraiment une déclaration étonnante. Il ne dit pas « Je suis celui qui était là, qui est ici et qui sera là-bas ». Il dit simplement « J'étais, je suis et je serai ». C'est sans début ni fin. Ici, Dieu affirme sa présence éternelle. Il est partout à tout moment. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Et il l'est. Sa présence n'est pas limitée dans le temps ou dans l'espace. Quelqu'un pourrait dire « Eh bien, vous savez peut-être ce que vous savez, parce que vous savez ce que vous savez au sujet des lieux que vous avez visités. Mais il pourrait y avoir des endroits en dehors de l'endroit où vous avez été. Et alors, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous ne savez pas. » Et Dieu dit « Je suis partout, tout le temps. Et donc, il n'y a rien en dehors de l'endroit où je suis. Il n'y a rien qui peut se produire avant que je ne sois aux alentours. Et il n'y a rien qui puisse arriver après mon départ, car il n'y a jamais un avant que je sois là. Et il n'y a jamais un moment où je suis parti. Et quand je dis que Jésus vient, c'est réglé, parce que toutes les questions, toutes les personnes, tous les événements, tous les lieux et toutes les réalités pour toute l'éternité sont visibles pour moi. » Le troisième attribut est l'omnipotence. À la fin du verset 8, il dit « Je suis le Tout-Puissant ». Quelqu'un va venir et dire « Eh bien oui, peut-être qu'il est omniscient et qu'il sait tout, et peut-être qu'il est partout, et qu'il n'y a rien dont il n'est pas pleinement conscient. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, et ce quelqu'un pourrait faire échouer son plan. » C'est pour cela qu'il dit « Si vous pensez cela, je vous rappelle que je suis le Pantocrator, en grec. » Celui qui a toute la puissance. Cela ne servirait pas à grand-chose d'avoir toutes les connaissances et d'être capable d'être présent partout à la fois, si vous n'avez pas aussi tout le pouvoir, n'est-ce pas? Parce que toutes ces informations et toute cette observation n'ont pas d'importance si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. L'expression « le Dieu Tout-Puissant », en passant, est utilisée 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. C'est lui le pouvoir suprême. Oui, il a toutes les connaissances. Oui. Il est toujours et présent partout. Et oui, il a le contrôle absolu, souverain, complet, de chaque chose. Lorsque j'en dis qu'il vient, il vient, et Dieu le garantit. Il va venir dans un nuage de gloire, et tout le monde va le voir. Les Juifs vont pleurer et seront sauvés. Les païens vont pleurer et seront détruits. Et notre réponse devrait être « Oui, oui, que cela se produise. » Et Dieu dit « Croyez-moi, cela va se faire. » Le verset 7 est vrai. Parce que Dieu le garantit par sa personne, dans le verset 8. Jésus-Christ a quitté le ciel pour la terre dans l'abaissement. Il sera de retour dans l'élévation. Il a quitté le ciel pour être tué. Il reviendra pour tuer. Il a quitté le ciel pour servir. Il reviendra pour être servi. Il a quitté le ciel pour offrir la grâce. Il reviendra pour exiger la justice. Il a quitté le ciel pour chercher et sauver. Il reviendra pour chercher et détruire. La question dans ce livre est toujours « Êtes-vous prêt ? Il arrive. » John Phillips écrit « L'un des passages les plus émouvants de l'histoire anglaise raconte les conquêtes et les croisades de Richard I, Richard Cœur de Lion. Alors que Richard était absent pour écraser Saladin, son royaume est passé par de mauvais moments. Jean, son frère sournois et sans merci, a usurpé toutes les prérogatives du roi et abusé du royaume. Les habitants de l'Angleterre ont souffert, languissant après le retour de leur roi et priant pour que cela arrive très bientôt. Puis un jour, Richard est revenu. Il a débarqué en Angleterre et a marché droit vers son trône. On a créé beaucoup de contes autour de ce retour grandiose, tissés dans les légendes de l'Angleterre. L'un d'eux est l'histoire de Robin des Bois. Les châteaux de Jean sont tombés comme des quilles. Le grand Richard prétendait à son trône et personne n'osait se mettre sur son chemin. Les gens criaient leur joie. Les carillons sonnaient à tous les clochers. Le lion était de retour, et il s'écriait « Longue vie au roi !» Un jour, un roi, bien plus grand que Richard, va revendiquer un royaume bien plus grand que l'Angleterre. Ceux qui ont abusé de la terre en son absence, et ceux qui ont saisi ses domaines et mal géré son monde, seront tous balayés. Seuls, ceux qui l'aiment et plient le genou devant sa souveraineté, participeront à son royaume. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Père, nous te remercions pour cet aperçu rapide et pourtant passionnant de la venue du Christ. Et nous disons avec Jean, Amen, que cela se produise. En même temps, Père, nous prions pour que chaque individu ici soit prêt, que chacun se soumette à Christ. Vos têtes peuvent être courbées pour un instant. Vous pouvez méditer, mais si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas prêt pour sa venue. Il n'y a aucune garantie que vous surviviez même à l'holocauste des événements qui mènent à son retour, car la plupart des gens vont mourir. Il n'y a aucune garantie que vous seriez même parmi ceux qui le verront arriver dans les nuages. Et quand bien même vous y seriez, notez qu'il n'y a aucune garantie que vous vous repentiriez, car la majeure partie de la population ne le fera pas. Voilà pourquoi Paul dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demandez à Jésus-Christ de vous sauver. Repentez-vous de vos péchés. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur maintenant, ce soir. Je suis convaincu que vous allez ouvrir votre cœur à lui. Père, parle au cœur. Que tout le monde soit prêt pour le moment inévitable et tous ces événements tragiques qui précèdent la venue du Christ dans le jugement. Aie pitié de ces âmes et sauve-les pour l'amour de Jésus. Amen. »
Pour de plus amples renseignements ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.